prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, la vraie grandeur.
On va lire ce texte dans Matthieu chapitre 18, dans le verset 1 à 5 et ensuite 10, verset 10 et verset 14. La question qui est posée, c'est celle-ci par les suivants de Jésus. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Voici donc une question qui va révéler la nature même de ce qu'il y a dans le cœur de ces compagnons de Jésus. D'abord l'ambition et la préoccupation d'être quelqu'un. Et c'est vrai qu'il est étonnant de voir cette question posée par ceux qui ont suivi le maître pendant près de 3 ans et qui ont vu des choses extraordinaires, ont suivi un homme extraordinaire et qui certainement va l'avoir à leur part, dans leur personne, eh bien de quelque chose qui les élève un peu. Vous savez que précédemment, Jésus avait dit à ses accompagnateurs, à ses compagnons, qu'il serait trahi, qu'il serait mis à mort et qu'ensuite il ressusciterait. Et c'est vrai que le premier mouvement de réaction de ceux qui avaient entendu cette nouvelle, d'abord, ça a été la tristesse. Sans toutefois mesurer le sens et de comprendre véritablement ce que Jésus leur disait à ce moment-là. La question évoquée en dit plus. Les disciples étaient beaucoup plus intéressés, il faut le reconnaître, parce qu'il, ce qu'il allait leur arriver plutôt que ce qui est arrivé à Jésus. Il me semble bien que quand on lit le passage, eh bien là, véritablement, ils ne se sont pas trop préoccupés de ce que Jésus allait vivre quand il leur a dit ces choses dramatiques, qu'il allait mourir, qu'il serait crucifié, et puis aussi cette autre nouvelle qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. Je crois que Jésus, le Seigneur, voulait tout simplement leur signifier qu'il passerait par l'humiliation, et cette humiliation allait le conduire à la croix, donc à la mort. Et nous voyons que eux, ils ne parlaient que d'une chose, tout simplement de s'élever et d'être grand. En toute sincérité, et nous pouvons naturellement le deviner dès l'abord, quoi de plus honorable, quoi de plus formidable que d'être la personne la plus grande, la plus importante et parvenue finalement à cette position, sans aucun doute, faire le plus de bien possible. Il y a bien des gens, et peut-être même les chrétiens, qui peuvent être interpellés par ce genre de choses, dans la manière finalement de dire, eh bien Seigneur, élève-moi, fais de moi un personnage important, permets que je puisse prendre, eh bien là, quelques responsabilités ici ou là, et peut-être naturellement à commencer par l'Église, et à ce moment-là, j'aurai les moyens de faire le bien. Je pense que c'est tout à fait naturel et humain, mais tout le monde a rêvé d'être finalement, eh bien, d'avoir des possibilités, des capacités, et de pouvoir dire, eh bien, si j'étais, si je faisais, si j'étais ceci, si j'étais cela, eh bien, certainement que le monde changerait. Ça, c'est notre réflexion à nous, naturellement. Alors, nous allons arriver à ce que Jésus nous dit dans notre récit que nous avons défini. Ce sont l'attitude et le comportement des enfants. Et vous rappelez et vous dire que l'enfant voit la vie qui est devant lui, donc la vie future, et le monde de demain, surtout quand ils sont petits, sans ombre, et sans le mal qui corrompt tout. C'est ce qui fait finalement, eh bien, le caractère même de l'enfance. C'est quelque chose de beau d'ailleurs, quelque chose qu'il nous faut en tant que parents, encourager. Et ce qui fera dire à Jésus dans le sermon sur la montagne, cette parole, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ça, vous connaissez naturellement cette parole, cette citation. Finalement, les disciples étaient des adultes, ils avaient été enfants, mais ils étaient devenus des hommes, et ils pensaient d'abord à eux-mêmes, avec tout ce que pouvait produire, sans s'en rendre compte, l'égoïsme d'abord, dans le cœur, l'envie, la jalousie, les rivalités, la convoitise. Et Jésus va entrevoir à la suite de la question qui a été posée au Seigneur, qui donc est le plus grand dans le royaume de Dieu? Voilà. Et Jésus va entrevoir quelque chose, parce que Jésus est venu apporter un autre régime, une autre disposition sur la terre. Non pas d'être grand ici-bas, mais d'être grand dans le ciel. Et ils sont particulièrement, eh bien là, dans une sorte de conflit. Alors Jésus va comprendre qu'il y a un certain désordre dans la compréhension des choses. Et il est temps pour lui de remédier, finalement, au plus vite. Et comment Jésus va remédier? Eh bien, de la façon que nous avons dans notre passage. Il nous est dit qu'il appela un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Voilà. Ça, c'était la réponse de Jésus. Il s'aperçoit que chez ses disciples, il y a une certaine aspiration à devenir grand. Mais pour être grand dans le royaume de Dieu, il va nous enseigner qu'il faut être petit sur cette terre. Petit, je vais m'expliquer d'ici quelques instants. Mais une chose qui est certaine, c'est que il y a des principes qui doivent être remis et qui doivent être inculqués à ceux qui bientôt, donc ses disciples, vont prêcher au monde entier les vertus de ce royaume. Il faut que, finalement, ils apprennent la leçon. Alors, je le rappelle, Jésus, pour remédier à cette carence qu'il voit chez ses compagnons, alors il va prendre un petit enfant qui se trouve là et il va le placer au milieu, eh bien au milieu d'eux. Imaginez-vous une petite tête brune, parce que je pense qu'en Israël, il y avait très peu de blonds, mais enfin, peu importe qu'il soit blond, qu'il soit roux, d'une manière ou d'une autre, au milieu de 13 géants. Parce que pour un enfant, un adulte, c'est un géant. Hein. On a perdu un petit peu de vue tout cela, parce que maintenant, on regarde les choses du haut. Je ne citerai pas l'âge, mais toujours est-il de notre expérience de vie. Alors imaginez-vous ce petit bonhomme, cette petite fille, enfin un petit enfant, en tous les cas, peu importe, et vous avez là un 13 Père Dieu qui est en train de l'observer, il regarde, hein, des gens qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Et vous savez que les adultes que nous sommes, on a souvent donné aux petits l'exemple des grands. Fais comme papa, fais comme maman. Hein, ça, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Mais Jésus nous étonne encore, parce que lui, il va faire exactement le contraire de ce que nous avons l'habitude de faire. Hein. Et c'est par un petit. C'est un enfant qu'il choisit, tout simplement comme modèle, pour les grands. Vous voyez, il renverse un peu l'ordre des choses pour nous inspirer eh bien, la leçon qu'il va nous donner. Alors, quelle leçon pour tous les temps et pour tous les âges de la vie? Et nous pouvons nous mettre à l'écoute et à l'enseignement de Jésus parce que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, de ceux qui sont âgés, de ceux qui ont des cheveux blancs, parce qu'il paraît que c'est d'une couronne d'argent qui donne la sagesse. Mais parfois, nous avons besoin de prendre des leçons et de recevoir, comme Jésus est en train de nous le dire, eh bien de ceux qui sont peut-être nos enfants et nos petits-enfants. On le savait déjà, les rapports de Jésus avec les enfants répandent un peu de poésie dans l'austérité de l'existence des hommes. Oui, on grandit avec le temps, on grandit avec l'environnement, mais je pense que à travers toute la Bible, on voit des choses extraordinaires. Dieu s'est servi des enfants, à commencer par Moïse, qui a grandi, c'est vrai, dans un premier temps, dans toute la sagesse des Égyptiens, mais qui est venu le sage, véritablement, pour conduire le peuple d'Israël vers le pays de la promesse. Et puis vous avez David, vous avez la petite fille esclave dans la maison de Naaman, vous avez Samuel, le jeune Samuel, le petit Samuel qui prophétise déjà alors que ce n'est qu'un enfant, et il y en a bien d'autres comme cela. Alors c'est vrai que nous trouvons cela dans l'évangile, eh bien il y a comme une tendresse, il y a comme, je le disais tout à l'heure, comme de la poésie, et je pense que ça c'est important. Jésus aime la compagnie des enfants et la recherche. On le voit à travers ce passage, mais bien d'autres. Un jour, on s'interpose et on empêche des petits de s'approcher du Seigneur. Et la réponse de Jésus est claire. Vous le connaissez, laissez venir à moi les petits-enfants. Tout simplement, ça vous le savez. Et nous voyons vraisemblablement que les enfants le lui rendent bien. Puis, puisqu'ils vont le proclamer dans le temple. Alors que les adultes sont en train de vouloir mettre une chape de plomb sur la personne de Jésus, sur ses paroles, sur sa messianité, eh bien, Jésus dira à un moment donné, eh bien, voilà, vous voulez faire taire, mais croyez que si vous voulez faire taire, eh bien, ce sont ceux qui sont à la mamelle qui proclameront ma gloire. Connaissez aussi ce passage. Cette prédilection de Jésus pour ses enfants ne tenait pas seulement à leur innocence, à leur confiance, dont nous allons parler tout à l'heure, à leur spontanéité, qui fait aussi pour nous, eh bien, que cela donne du charme, finalement, eh bien, à l'âge que peuvent avoir nos petits. C'est vrai, il y a ces qualités qui ressortent. Avant toute autre chose, Jésus appréciait chez l'enfant une qualité que nous, adultes, nous avons perdue, qui a disparu finalement de nos vies, et que souvent, sottement, je dis bien sottement, nous nous appliquons à détruire, c'est la simplicité ou l'humilité. Ouais. On a souvent rabroué nos enfants en disant qu'il fallait qu'ils mûrissent, c'est très bien. Mais souvent, on a fait aussi le contraire. C'est-à-dire que là, on a véritablement voulu faire disparaître cette candeur qu'il y a chez les petits. Alors, très sérieusement, à ses disciples, le Seigneur leur dit, tout simplement, qu'à moins de se convertir, c'est-à-dire de se détourner résolument de l'orgueil, des vaines prétentions, et à aspirer, en contrepartie, à un changement réel de cœur, pour devenir comme des petits-enfants, parce que l'exemple nous est donné, ils ne pouvaient entrer dans le royaume de Dieu. Alors je relis ce passage parce qu'il est quand même assez intéressant. Quand il est dit ceci, je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit-enfant comme celui-ci, il me reçoit moi-même. Voilà ce que Jésus est en train d'établir. On apprend ainsi que le royaume de Dieu n'a pas de place pour l'orgueil. Il n'a pas de place non plus pour l'exaltation du moi, enfin de soi, si vous aimez mieux. Et finalement, eh bien, notre premier ennemi, c'est tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes et qui crie et qui veut s'élever et qui veut dominer quelque part. C'est ce qu'on appelle le moi, tout simplement. Dans le royaume de Dieu, Dieu seul est grand et Jésus est digne d'être adoré. Et ça, nous devons le comprendre. Et d'autant plus que nous devons le comprendre parce que nous voyons le monde de la manière dont il se comporte, mais nous avons nous-mêmes besoin parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous devrions le comprendre d'autant plus. Dans l'évangile de Marc, il y a une précision à souligner qui n'est pas donnée dans Matthieu. Il nous est dit que Jésus prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, ça nous l'avons déjà lu, mais il l'a pris dans ses bras aussi. Le fait de prendre ce petit bonhomme, qui est là au milieu de ces 13 géants, comme nous avons parlé tout à l'heure, hein, qui le regardent, Jésus va l'élever. Il va le prendre dans ses bras. Auparavant, Jésus avait déclaré « Quiconque ne sera pas humble ou modeste comme un enfant. » Qu'est-ce que ça veut dire se rendre ? Se rendre volontairement, c'est se donner, c'est s'abandonner, c'est recevoir docilement et sans résistance. Et c'est ça ce que nous apprenons lorsque nous vivons en Église, lorsque nous vivons aussi en famille. L'enfant est maintenant dans les bras de Jésus. Imaginez-vous, hein, je suis en train de vous porter un peu dans l'image là. Et à remarquer que cet enfant qui est dans les bras de Jésus, qui est maintenant à la hauteur des autres, c'est-à-dire des autres hommes, ils se sont grands, on pourrait dire. Et vous avez remarqué avec moi que l'enfant ne lutte pas, il ne se débat pas. Il ne dit pas « je suis trop grand pour cela, pour être pris dans les bras d'un homme ». Sa position est tout simplement naturelle, parce qu'elle est inspirée par la confiance. Ça, c'est important de le souligner. Il répond à l'amour, deuxièmement. Il croit à l'invitation qui lui est offerte. Il jouit de la sécurité dans les bras de Jésus. Quelle leçon pour chacun d'entre nous, de nous laisser porter. Vous savez, le Seigneur nous donne, enfin Dieu nous donne une leçon par le prophète Ésaïe. Il dira à chaque enfant de Dieu, je vous ai gravé au creux de mes mains. Vous savez ça, hein ? Ça c'est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Alors, il jouit de cette sécurité, il jouit de la force qui sont à disposition. Et tout simplement, ils se laissent porter. Si vous voulez traduire les choses d'une autre manière, je vous dirais, c'est tout simplement la position de la foi. Et les uns et les autres qui entendons ce message, qui l'entendons à chaque fois que nous nous réunissons, nous sommes exhortés à quoi ? Nous sommes encouragés à quoi ? Tout simplement à nous laisser porter. Comme des enfants. Et ne pas nous débattre, quelquefois comme nous le faisons, avec nos caprices, avec nos idées préconçues, avec quelquefois où nous rejetons eh bien, les interventions de Dieu parce que nous pensons que nous sommes assez grands. C'est ça l'idée qui est à développer. Parce que cet enfant qui est dans les bras de Jésus va nous faire la démonstration qu'il sait qu'il peut compter sur celui qui le tient. C'est très, très élémentaire ce que je vous dis ce matin. Mais si cela revient dans notre texte et dans les textes de l'Évangile, et que c'est repris également par des hommes comme Paul, quand il est parlé de la croissance où nous devons passer par ce stade pour arriver à être des hommes faits, c'est parce que nous avons compris et nous avons vraiment acquis eh bien, ces leçons. Et ces petits enfants dans les bras de Jésus, il peut compter sur Jésus. Il n'y a aucun problème. Comme nous-mêmes, en tant que père ou mère, lorsque nous prenons un enfant dans les bras ou un petit enfant, eh bien, nous ne le prenons pas pour le laisser tomber. Hein. Il vient. D'ailleurs, vous avez vu la manière dont il se précipite. Vous dites à un petit, jette-toi dans les bras de papa ou de papy. On ne se dégage pas pour qu'il prenne le mur qui est à côté. Hein. Non, on le prend. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est le même réflexe que Dieu a pour nous. Et nous devrions nous lâcher. Nous devrions nous précipiter dans les bras de notre Père Céleste. Parce que nous pouvons compter sur lui. S'il nous dit, viens et suis-moi, c'est parce qu'il est là. Tout simplement. Et ça, c'est important, parce que ce sont des bases, ce sont des principes. Hein. Et cela est un encouragement à notre foi, tout simplement. Et la réaction de cet enfant, quel qu'il soit, c'est tout simplement de la simplicité. Il ne se pose pas mille et une questions. Il ne se perd pas dans des calculs et des analyses. C'est la foi et c'est l'humilité. Notre monde occidental, aujourd'hui, ne paie pas en honneur ses vertus. Mais l'homme qui se prétend intelligent la dénonce ou dénonce ses vertus comme plutôt comme des tares morales, oui, ou un exécrable défaut. Il faut être un homme, voilà. On le dit aux petits garçons, il faut que tu sois un homme. Voilà, ne pleure pas parce qu'il faut que tu sois un homme. Ben, quand on a envie de pleurer, il faut pleurer. Voilà, et vous savez ce qui nous fait pleurer ? C'est le mal, c'est l'injustice. C'est le manque de vérité, c'est l'hypocrisie. Alors on pourra toujours répéter cette leçon qui n'a aucun fondement et qui va faire des hommes, des enfants, des hommes endurcis, des hommes sans miséricorde et des hommes qui n'auront aucune pitié de la souffrance des autres. Voilà. Alors Jésus nous laisse ça, tout simplement. Être humble, eh bien regardons un peu comment le monde envisage l'humilité. Dès l'école, on prône la race. On prône l'individu, la compétition, les prouesses. Mais l'idole reste toujours la même. C'est l'homme avec sa force, c'est son savoir et c'est ses performances. Plus que jamais, nous sommes dans un monde comme cela. Ouais. On exerce nos mains à un mauvais combat. Parce que cette humanité va se perdre. Elle veut se déliter avec ce genre de principe. C'est sûr qu'il faut être des hommes dans ce monde. C'est vrai qu'il faut que de la combativité, pardon, mais pas de l'agressivité. C'est deux choses différentes. Alors, si l'on fonctionne qu'avec des performances, ben, on risque de se trouver d'abord nous-mêmes peut-être au sommet, mais après un moment donné, parce que la performance, ça ne dure pas toujours. Hein. Rejeté, humilié. Et là, ça fait mal. On le sait, la lutte dans le contexte de vie dans lequel nous sommes et dans lequel nous projetons nos enfants également est un contexte impitoyable. Et le vocabulaire à la mode, pour pouvoir monter, pour pouvoir être grand, eh bien c'est tout simplement jouer des coudes. C'est gravir les échelons, c'est se laisser, finalement, c'est se hisser au sommet, c'est écraser les autres, c'est vaincre, c'est triompher, c'est dominer. Autant de mots dans notre vocabulaire qui nous séparent de l'humilité si naturelle du début de la fin, du début de la vie, pardon. Oui, du début de la vie. On perd très vite sa candeur pour devenir un prédateur. Et on fait des hommes des prédateurs. Et on le constate, hein, certainement dans ce que nous vivons, Parce que le monde, c'est une jungle sans merci. Et à celui qui sera fort, eh bien, il y arrivera. À celui qui sera faible, on l'écrasera. Et on se servira justement de sa faiblesse pour se hisser. Alors, en tout cela, il y a un mot que nous connaissons bien et ce qui était la ruine de l'homme à ses débuts, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est de croire que tout est normal, même lorsque l'on fait du mal, et que l'homme peut, par ses seules forces, par ses seules capacités, par son énergie, atteindre l'idéal pour lequel il est fait. Mais cet idéal, ce n'est pas l'idéal de Dieu. Parce que les règles dans ce monde sont complètement à l'opposé des règles du sermon sur la montagne, et particulièrement soulignées dans les béatitudes. Parce que l'homme ne compte que sur lui. Le chrétien compte sur Dieu. Et vous savez, on va beaucoup plus loin qu'on peut se l'imaginer avec le secours de Dieu et la force de Dieu eh bien, en nous. Et quand l'homme finit par y parvenir avec les principes que nous avons partagés, que de ruines derrière lui et de larmes. On s'aperçoit qu'il monte, il atteint peut-être son but, mais c'est peut-être souvent au mépris de sa santé, c'est au mépris de sa famille, au mépris de ses enfants. Peut-être qu'il jouit de l'argent, d'une réputation, et ceci et cela. Mais qu'est-ce que nous laisse tout cela, finalement? Jésus le dira, que si quelqu'un veut gagner le monde, il y perdra son âme. Et ça, vous le savez, on le sait très bien. Alors voici la vision de l'homme sans Dieu. Alors ici-bas, c'est vrai qu'il y a de la place que pour le fort, pour le sportif, pour le valeureux soldat, pour tout simplement l'habile discoureur. Et quelles que soient les méthodes, on trouve toujours à se justifier par l'adage bien connu, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Mais alors, quand on est fort, on le sait qu'on est fort, mais quand on est faible, on sait aussi qu'on est faible. Et ça, c'est terrible, parce qu'il y a beaucoup d'humiliation à la clé. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Alors, vous savez, il n'y a pas que les enfants qui pleurent. Hein. Il y a aussi des adultes qui pleurent, parce que finalement, eh bien, ils ont été soumis à cette loi terrible. Alors, malheur aux faibles, malheur aux minorités et aux petits. Et Jésus est venu rétablir l'équilibre. C'est pour ça que nous avons de tels sujets dans l'Écriture sainte. Alors, que l'homme s'élève pour atteindre on ne sait quoi, parce que souvent son but, ce sont des choses qui le renvoient à lui-même, à l'égoïsme, on l'a dit. Dieu a sa réponse, elle est claire et évidente. Quiconque s'élève sera abaissé, et les premiers seront les derniers. Ça, c'est la règle, il n'y a rien à faire. Et pour les chrétiens, c'est vrai, mais je dirais que quelque part aussi pour les gens de l'extérieur, c'est aussi vrai. Qu'on ne veuille l'admettre, ce principe dans un monde qui met en avant le contraire, cela n'enlève en rien à la réalité spirituelle, à la vérité des paroles de Jésus. Et nous voulons être attentifs à ce que Jésus nous dit. Et réussir, finalement, dans les projets qu'il a tracés devant nous. À une autre occasion, Jésus a prié ainsi. Cela nous est dit dans Matthieu chapitre 11. Et vous connaissez cette belle prière qui s'adresse à son Père céleste. Il dira ceci, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Volontairement, Dieu cache ses secrets. Et vous savez que Dieu a des secrets. Hein? Ah, il en a, ça c'est certain. Il les cache. À quiconque se dit intelligent, se dit fort, se dit supérieur, se dit être grand garçon et capable de se débrouiller tout seul, et figurez-vous que dans cette information que Jésus nous donne, eh bien, il les révèle à tous ceux qui humblement lui font confiance pour comprendre. Et n'est-ce pas là la différence entre l'intelligence de la tête et aussi l'intelligence eh bien, du cœur? C'est ce qui fait la différence. La tête et puis le cœur. Les premiers cherchent la clé de la connaissance universelle en disant « plus j'apprendrai, plus je vais acquérir de ceci et cela par la force de mon poignet, par ma volonté, eh bien je parviendrai ». Parce que depuis la nuit des temps, les hommes n'ont cessé de marcher sur cette voie-là, ça c'est sûr. Et on s'aperçoit qu'ils n'ont toujours pas trouvé. Parce que plus on va, plus on sait, et moins on sait. Moins on trouve de solutions. C'est sûr qu'il y a des choses qui avancent, il ne faut pas le nier. Mais d'un autre côté, on va de plus en plus vers la complexité de la vie. De plus en plus, on perd la simplicité. Et quand on a trouvé quelque chose, eh bien ça rend les gens orgueilleux, ça les rend hautains, ça les rend méprisants. C'est quand même C'était certainement pas le but, naturellement. Par contre, les seconds, les enfants, eh bien, par la foi seulement, eh bien, on perçait les mystères de Dieu, à commencer par leur salut et leur destination qui est l'éternité. Dans Romains, il nous est dit cela, d'ailleurs, qu'il nous est parlé du salut de Dieu par la foi, la justification dans la foi et la perspective de notre éternité. Alors le cœur de l'homme a besoin d'être changé, et c'est une nécessité absolue, parce que Jésus le souligne dans cet enseignement, en prenant ce petit enfant qu'il a est au milieu des grands, il dira, mais si vous ne vous convertissez pas, eh bien, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu, si vous ne vous convertissez et que vous ne deveniez comme des petits-enfants. La conversion est un des thèmes les plus fréquents, les plus souvent abordés, rencontrés dans l'enseignement de Jésus, d'une façon ou d'une autre. Et je rappelle le principe, il est connu de tous les chrétiens, mais je le rappelle quand même, c'est changer de route. C'est tout simplement changer de vie. C'est abandonner à commencer ses prétentions, notre vantardise, oui, notre vanité, nos illusions de l'existence, pour être, figurez-vous, remodelé. Remodelé en sous-main par Jésus et par sa parole. Et à partir du moment où nous nous mettons à l'écoute de sa parole, que nous nous laissons enseigner par le Saint-Esprit, Dieu est en train de faire une œuvre. Et je suis sûr qu'il a fait. Vous venez et vous participez aux réunions, Dieu vous parle par les uns, par les autres, peu importe le messager, mais ce qui est important, c'est de retenir le message. Et à chaque fois que nous sommes confrontés avec ces exhortations, avec ces encouragements du Seigneur, eh bien, Dieu apporte une touche supplémentaire à notre remodelage. Vous savez, comme le potier, hein, qui est en train de tourner un vase. Alors avant qu'il ne soit un vase d'honneur, il y a du travail à faire, mais c'est ce qui se passe. Et on accède de cela par une repentance, par la foi, et Dieu opère en nous ce qui nous est impossible d'accomplir. Et ça, c'est important. Et si nous revenons ce matin sur le thème de l'humilité, sur le thème de la modestie, sur le thème de la simplicité, c'est que même les enfants de Dieu ont besoin de passer par là. Et je dirais que la conversion, c'est une reconversion permanente. N'allons pas penser que au moment où nous nous sommes fait baptiser et que tout était réglé. Et peut-être justement, on ira diagnostiquer ou on ira stigmatiser des péchés qui sont peut-être plus évidents, plus gros. Mais ça passe aussi par des péchés qui sont cachés. Entre autres, de vouloir paraître, de vouloir être grand. Qui est celui qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? Ben voilà. Qui sera le plus grand dans l'Église? Qui sera le plus fort ou ceci et cela? Et notre transformation intérieure est appelée à juste titre une nouvelle naissance. Naître de nouveau. Un petit enfant, il vient de naître. Il a 8 ans, il n'a pas commencé sa vie, ou presque. Voilà. Et c'est vraiment l'image que Jésus. C'est repartir pour une vie nouvelle, nous refaire sur un plan moral et spirituel, dans les choses que nous avons déjà vécues et que nous aspirons peut-être d'une autre manière. Écoutons comment Jésus nous en parle dans l'évangile de Jean. Je ne cite pas, mais vous connaissez tellement ce texte. Au chapitre 3, Jésus rencontre un homme qui s'appelle Nicodème. C'est un homme âgé, c'est un vieillard même. Et Jésus va le bouleverser. Il va véritablement le renverser, nous pouvons dire, parce qu'il lui dira, lui, Nicodème le vieillard, il lui dira tout simplement que pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Ah oui, ça le sidère. Et il posera des questions assez saugrenues, parce qu'il dira, mais est-ce qu'il faut que je rentre tout à nouveau dans le sein de ma mère pour pouvoir... Il n'en est pas question, naturellement, mais ce n'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan spirituel et moral. Alors, quel est le chemin pour y parvenir? Ça répondra à la question de Nicodème. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est la réponse à la question qui était posée précédemment par les disciples. Et Jésus affirmera une chose, c'est l'humilité. Je crois que, quelquefois, l'Église en général a donné un triste témoignage. Parce qu'elle était dans le sens contraire de ce que les hommes à l'extérieur auraient dû voir en elle. Au lieu de voir la modestie, de voir l'humilité, de voir la douceur, comme Jésus le dit, doux et humble de cœur parce que vous êtes mes disciples, Eh bien, on a montré une façade, où on a montré un visage de l'Église qui était tout le contraire. Une Église opulente, une Église qui domine, une Église qui dicte sa loi. Alors on comprend que les gens ne peuvent pas se reconnaître entre finalement l'essentiel de l'Évangile que nous avons, que nous lisons, et puis la réalité qui est autour de nous. Je voudrais vous dire quelque chose que vous savez déjà, mais pour les parents, leur enfant est toujours le plus beau. C'est vrai, hein? Enfin, ça c'est sûr. Hein? Voilà, faut jamais faire le contraire d'un compliment à une maman, hein, sur son fils ou sur sa fille, c'est normal, c'est tout à fait. Mais maintenant, quelle est la pensée de Dieu? Pour Dieu, pour ce Dieu qui est un Dieu infini, écoutez bien, chacune de ces créatures qui croient, qui marche humblement, devient la plus importante. Ce n'est pas celui qui gonfle la poitrine ou qui est en train de montrer ses biceps hein, d'une façon ou d'une autre, mais c'est véritablement cette qualité, cette vertu qui rend, qui nous rend aux yeux de Dieu, eh bien des créatures qui ont de la valeur. L'échelle des valeurs est renversée. Sur la terre, ce sont les honneurs, c'est la position, ce sont les aptitudes qui élèvent aux yeux de Dieu. À l'inverse, c'est la confiance, c'est la douceur, c'est l'humilité. Et un enfant n'a pas besoin de se vanter ou de se mettre en avant pour trouver une place dans le cœur de ses parents. Hein. Enfin, pour des parents normaux, je veux dire. Hein. Il n'a pas besoin de faire un cinéma, il n'a pas besoin de faire une comédie. On sait qui est notre enfant. On le sait, tout simplement. De même, nous avons besoin, ou plutôt nous n'avons pas besoin, de faire prévaloir tel mérite ou telle qualité pour être agréé dans le cœur de Dieu. Et c'est peut-être justement le problème, quelquefois, d'un évangile qui ne reste plus dans l'esprit de la grâce, où il faut faire, il faut, eh bien là, accomplir, il faut véritablement tout mettre en œuvre pour être agréé de Dieu. Mais nous le sommes depuis longtemps agréés de Dieu, et nous le sommes par grâce en raison de sa faveur. C'est pas la peine de faire ceci et cela. Soyons ce que nous devons être, et restons dans la position qui est celle de, tout simplement, de l'humilité. Et puis, en cela, eh bien, Dieu sera glorifié. Beaucoup plus que de faire l'étalage de nos états de service, ou de dire, eh bien, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis ceci ou je suis cela. Aux yeux de Dieu, ça ne compte pas. La chose qui demeure aux yeux de Dieu, c'est tout simplement, eh bien, cette position dans laquelle nous nous mettons, dans la confiance, et que nous nous laissons porter. Dieu nous aime, et il veut nous sauver, nous l'avons vu. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est d'y croire simplement. Jésus précisera la chose, il dira, mais comme un petit enfant. Ce qui élargit la pensée, non seulement à l'âge, mais à la condition. Petit dans le sens de faible, comprenez ? D'insignifiant, qu'on ne tient pour pas grand-chose. Ils sont nombreux ceux qui répondent à cet état, à en croire ce que nous avons cité tout à l'heure, le sermon sur la montagne. Oui, heureux serez-vous lorsque vous aurez faim et soif. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous écrasera, lorsque l'on vous exploitera, et puis bien d'autres choses. Ces petits, entre guillemets, incluent tous les souffrants, tous les isolés et tous les rejetés dans la mesure où ils se laissent fléchir par l'appel de Dieu et qui ont une attitude correcte par rapport à la justice et à la vérité. Voilà comment Jésus les définit, ces petits. Je le rappelle encore une fois, Jésus nous dit, comme un petit enfant, vous avez remarqué, comme. J'attire votre attention sur ce petit mot, comme. Il s'agit ici d'une comparaison et non pas d'une identification, c'est-à-dire, comme, si vous voulez peut-être apprécier le mot davantage, ressembler. Ressembler, hein. C'est pas de prendre des culottes courtes et puis voilà, hein, de revenir à, pour les garçons naturellement, hein, mais toujours est-il que c'est ressembler, voilà, c'est une comparaison. Alors pourquoi? Parce que le christianisme conventionnel a trop souvent conduit et maintenu les gens dans une condition entre guillemets religieuse de dépendance où ils sont restés enfants sur le plan moral et spirituel. On a été élevé par des commandements religieux, enfin pour la plupart d'entre nous. Fais ceci, fais pas ça, beaucoup plus fais pas ça que fais ceci. Si tu es un bon garçon, et puis si ceci et cela. On a grandi dans ce cadre-là. Enfin, en ce qui me concerne, c'est personnellement mon expérience. Alors, vous savez, ce genre de glissière de sécurité, ça vous fait glisser. Et pas toujours du bon côté. Hein. Parce que les gens ne se développent pas. Si vous voulez que vos enfants deviennent des gens responsables, il faut qu'à un moment, en fonction de, naturellement, de l'évolution de leur âge, que vous leur donniez la liberté de choisir par eux-mêmes. Et pas de tout interdire. Parce que le jour où véritablement ils auront l'âge de dire « Papa et maman, ça ne me convient plus », vous allez voir qu'ils vont sauter la barrière, ils vont la sauter très haut. Et là, peut-être que nous aurons à pleurer. Parce que on aura toujours fait les choses pour eux. Il faut que apprendre à grandir. Et c'est ce que Jésus aussi tente à nous inculquer. Une des croyances infantiles et puériles qui aujourd'hui, aux yeux de tous, discrédite le sérieux de l'Évangile, ce sont toutes ces choses qui appartiennent où les parents font de leurs enfants des tanguis. Vous connaissez l'histoire ? Ah oui, vous connaissez Tanguy. Oui. Et à 40 ans, vous l'aurez encore à la maison. Et vous l'aurez encore à la maison dans le domaine, eh bien là, hein, moral et spirituel. On a rencontré un homme, enfin mon épouse plutôt, un homme qui a un fils, il y a 36 ans. Il lui dit, voilà, moi je dirige encore la vie de mon fils. Bah, remarquez, il est gentil, hein, son fils. Parce que quand même à 36 ans, je pense que c'est... Ouais. C'est ce qu'il disait. Hein. Enfin, moi, je n'étais pas là, mais j'en ai entendu. En tous les cas, ça a été rapporté. Écoutez, vos enfants, ils ont 5 ans, d'accord. Ils ont 10 ans. Ils ont, en pleine adolescence, surveillez-les. Hein. Mais quand ils arrivent à 20 ans, quand ils arrivent à 25 ans ou à 30 ans, c'est plus du tout la même chose. Hein. Ça, c'est plus du tout la même chose. Et c'est vrai que on a parfois présenté les choses de Dieu sous des aspects de mièvrerie. Ouais. On en parle encore, regardez. Je ne voudrais pas insister sur le fait, en respectant la conscience de chacun, mais la fête de Noël, qu'est-ce que c'est? Comment voit-on le christianisme? Comment le donne-t-on à des enfants? Comment transmet-on l'idée à nos enfants? Ben, un petit bébé dans la crèche. Mais le bébé, il a grandi. Hein. Il est devenu un homme. Il est devenu le sauveur de tous les hommes. Il est devenu le Messie pour Israël. Mais les gens restent dans cette vision. Et c'est tout ce qu'ils retiennent traditionnellement. Moi, je dis, c'est quand même assez limité, c'est quand même assez restrictif. Hein. Alors que le message biblique est autrement plus consistant que cela. C'est pas seulement Jésus dans la crèche, mais c'est Jésus à la croix, c'est Jésus ressuscité, c'est Jésus enseignant. C'est l'Esprit de Dieu. Ça va beaucoup plus loin que ça, ça dépasse ce stade-là. Et le désir de retrouver en nous les vertus du premier âge, qu'est la confiance ou l'humilité, n'empêche pas à Jésus de nous exhorter, par ailleurs, de nous amener à acquérir par la réflexion, par le développement de notre âme, de notre cœur, eh bien, de nous amener à acquérir les qualités qui nous assurent le caractère de l'homme fait, de l'homme libéré par la grâce de Dieu, de toute tutelle, de la conscience, et de nous affranchir de toutes les superstitions, y compris les superstitions religieuses. C'est cela. Et là, nous allons encore beaucoup plus loin dans ce que ce texte peut nous suggérer. Parce que il y a des leçons à prendre. Jésus nous le rappelle encore une fois. Devenez semblables, soyez semblables aux enfants. Et certainement pas, Jésus n'a jamais voulu dire redevenez ou devenez infantiles. Devenez ou redevenez enfantins. Ou restez enfantins. Pas du tout, c'est le contraire. L'appel à suivre Jésus nous conduit vers une maturité intérieure qui demeure incompréhensible pour quiconque n'a pas répondu, finalement, eh bien, cet appel. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne tout cela. Alors, à plus forte raison, les grands-parents ou les parents chrétiens que nous sommes, enfin, surtout les parents, parce que ce n'est pas nous qui élevons nos petits-enfants, mais je pense qu'il faut apprendre à nous mettre, eh bien là, à l'école de Jésus, et de les amener véritablement à avoir une raison saine, d'avoir des choix, d'avoir des options qui soient fondées sur la parole. Et si nous prions, parce que quelquefois nous ne pouvons plus rien dire à nos enfants, et c'est normal, quand ils arrivent à 20, 25 ans, on ne va pas leur dire ce qu'ils ont à faire. À 30 ans, ils font des choix, et quelquefois des choix qui ne nous plaisent pas forcément. Mais je pense qu'il y a une chose que nous pouvons faire. Si nous ne pouvons plus leur dire à eux, nous pouvons toujours le dire au Père Céleste, que notre Père Céleste le dise. Et ils feront des expériences, c'est certain. Mais on ne peut pas les garder Là, en prison, ce n'est pas possible. Il faut grandir, il faut se développer. Et toute la Bible, et particulièrement les lettres de l'apôtre Paul, nous appellent à sortir de l'état d'enfance. Dans le cadre de notre vie religieuse, je l'appellerai plus communément pour nous la vie spirituelle, nous avons à nous défaire et à nous libérer de tout ce qui tend à nous rendre ou à rendre notre âme esclave de toutes sortes de choses qui n'ont pas lieu d'être. Un enfant, il joue encore. Mais quand à 50 ans, il joue encore avec le... Enfin, prêt électrique ou autre chose. Quoique souvent, les papas, pour les jouets de Noël, ils se font des cadeaux à eux-mêmes. Mais enfin, bon, ça, c'est une autre affaire. Enfin, ils ne passent pas toute leur vie à jouer, hein, ça, c'est sûr. Hein, ils ont autre chose à faire, naturellement. Mais il faut évoluer, il faut grandir. Être délivré de tout ce qui pousse notre imagination à la crédulité primaire et naïve. Ah oui, on a le droit de rêver à tous les âges de la vie. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut évoluer aussi dans nos rêves. On ne rêve plus que comme quand on avait 10 ans, c'est pas possible. Ouais, il faut grandir dans tout cela. Tout ce qui nous ramène ou ramène notre culte à des pratiques désuètes, comme dans le monde religieux, où quelquefois on a enseigné aux gens des choses qui sont tellement primaires. Dieu est esprit. Ceux qui le prient et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité, et non pas devant toutes sortes de représentations. Ça ne sert plus à rien. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était condamné et condamnable. Alors à plus forte raison dans le Nouveau Testament, qui est véritablement la dimension de l'esprit. Et faire dépendre notre vie, faire dépendre notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, notre salut, finalement de toutes sortes de choses qui n'ont rien à y voir et qui ont été instituées par les hommes. En un mot, se reposer sur une sentimentalité religieuse au détriment de la vraie spiritualité. Et la vraie spiritualité, quand on grandit, quand on se développe, c'est l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole. On en revient toujours au même. Ouais. Vous savez, les disciples, quand ils ont posé la question « Quel est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ben, ils avaient la réponse à travers ça. « Si tu veux être grand, écoute la parole de Dieu. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit et obéis au Seigneur. Tu ne vas pas obéir parce que tu trembles d'obéir. Tu ne vas pas obéir parce que tu as peur de Dieu. Tu vas obéir parce que tu aimes Dieu. Et ça, ça change tout. Ça change la nature des choses. Parce que j'aime le Seigneur et je me plais à lui obéir. Et vous savez, quelquefois, on reçoit des corrections. Hein. C'est le Seigneur qui nous les donne. Parce que quelquefois, on n'a vraiment pas envie d'obéir. Hein. On est du Seigneur. On se comporte comme des hommes immatures, comme des enfants. Qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants quand ils sont encore, quand ils jouent au bébé? On lui dit d'abord, hein, arrête de jouer au bébé. Hein. Des comédies, toutes sortes de choses, des enfantillages. Ben, le Seigneur, à un moment donné, eh bien, il nous fait avancer. Ça s'appelle tout simplement grandir. Et quand Jésus a pris ce petit enfant dans ses bras, c'est pour que, il allait physiquement grandir lui aussi. Hein. Il allait devenir peut-être aussi grand que Jésus et plus grand que Jésus, enfin, sur le plan physique. Hein. Plus grand que tous ces géants qui étaient autour de lui à le regarder. Et c'est pour nous montrer que quand on est dans les bras du Seigneur et qu'on se laisse porter, qu'on veut bien se laisser là, eh bien, emmener par le Seigneur. Bon, on grandit, frères et sœurs. On ne reste pas à ses pieds, bien qu'il nous faille toujours être aux pieds du Seigneur, naturellement, dans l'adoration et dans la reconnaissance. Mais il faut grandir. Seigneur, porte-moi. Donne-moi d'être comme toi. Donne-moi de pouvoir me développer. C'est grandir. Et grandir, c'est faire preuve que nous sommes des adultes responsables, mais qui toutefois ont su conserver ce qu'il y a d'unique chez les enfants. La première chose, c'est la confiance dans la vérité, avoir un cœur simple. Et la deuxième chose, c'est l'humilité, ou entendez par là la modestie, pour se laisser transformer par Jésus-Christ en nous et Jésus-Christ avec nous, parce que c'est lui qui nous conduit et qui nous montre le seul et unique exemple dont nous avons besoin. Alors qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Vous savez ce qu'il faut faire maintenant? Seigneur, donne-moi vraiment de marcher sur tes traces, de suivre tes pas et de devenir semblable à ce que tu es. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que, en effet, dans l'histoire merveilleuse de la Bible, tu as choisi des enfants. Tu as choisi des enfants pour en faire tes enfants. Tu as choisi des enfants pour en faire des hommes. Et nous croyons que pour chacun d'entre nous, pour certains d'entre nous, Tu nous as appelés lorsque nous étions des enfants, ou tout simplement des jeunes gens et des jeunes filles. Et tu nous as appelés pour que nous consacrions notre vie. En effet, eh bien, à ta gloire, à ton service. Parfois même, pour certains, à ton Église, pour l'enseigner, pour l'amener à la maturité d'hommes et de femmes faits en Christ. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette touchante image que nous avons évoquée ce matin, commentée. Oui, Seigneur, lorsque les hommes se posent, les adultes se posent des questions, Seigneur, pour savoir comment être grand, comment être fort, comment être intelligent et puis tout le reste. Alors, Seigneur, tu as voulu répondre par cette image toute simple, en prenant un enfant, le portant dans tes bras, et ainsi, Seigneur, pour nous montrer que nous pouvons grandir qu'en toi et en toi seul. Nous ne pouvons nous développer que dans la mesure où nous nous laissons porter par la foi, dans la confiance, dans la vérité, dans ton amour, Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons grandir. Je te demande, Seigneur, pour chacun et chacune, de nous visiter. Oui, Seigneur, apprends-nous à nous débarrasser de nos enfantillages, de toutes nos comédies, Seigneur, de toutes ces choses qui nous ramènent dans un passé qui est révolu parce que nous ne sommes pas appelés, Seigneur, à rester comme nous l'étions lorsque, dans les premiers âges de notre vie. Mais tu veux, Seigneur, que nous puissions devenir des pères et des mères, que nous devenions des statures spirituelles, que nous puissions dire à nos enfants, que nous puissions dire aussi à nos petits-enfants que nous avons été, que nous sommes devenus, mais que tout cela, Seigneur, a été fait tout simplement par la main de Dieu qui nous a portés. Alors, Seigneur, je te demande de visiter dans le contexte des couples, dans le contexte des familles, en effet, mes frères et mes sœurs qui se préoccupent et qui aiment leurs enfants et qui veulent les voir grandir pour devenir, à leur tour, Seigneur, en effet, des responsables, Seigneur, au nom de Jésus. Eh bien, tu nous as enseigné cette parole pour que nous puissions l'entendre, mais non seulement l'entendre, mais la comprendre. Et ainsi, Seigneur, de pouvoir être nous-mêmes, là, en effet, des formateurs. Oui, Seigneur, si nous laissons nous-mêmes former par le Seigneur, par ton esprit. Seigneur, bénis-nous, accorde-nous ta grâce. Et aujourd'hui, Seigneur, en effet, nous voyons comme dans un miroir, nous voyons comme des enfants. Mais nous savons, Seigneur, que ta parole nous dit qu'un jour nous verrons face à face. Nous ne marcherons plus, Seigneur, par la foi, mais nous marcherons par la vue, Seigneur. Oui, nous vivrons et nous verrons réellement. Et nous pourrons que te bénir pour l'éternité de ce que tu nous as appelé, de ce que tu nous as pris en main, de ce que tu nous as formé, de ce que tu nous as discipliné parfois dans certains cas. Et tu nous as préparé, Père éternel, une place dans ce ciel qui est là, Père éternel, et qui comble l'univers de ta sagesse, de Seigneur, où la caractéristique sera dans ton royaume, ça sera véritablement l'amour, ça sera la simplicité, ça sera la modestie, l'humilité. Oui, Seigneur, ta parole dit vrai, que celui qui veut être le premier soit le dernier, et que celui qui, en effet, veut être grand, qu'il soit serviteur de tous. Merci Jésus pour ta belle parole. Merci pour tes beaux enseignements. Parce qu'en effet, Seigneur, tu nous parles à chacun. Louange et gloire à toi, et que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.